Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yudelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver après une interruption due au fête de Tishri. Émission un peu spéciale aujourd'hui puisque à la place du grand rabbin qui n'a pas pu être là, nous avons la joie et le plaisir de retrouver avec nous le rabbin Mendel Samama. Monsieur le rabbin, bonjour.
Bonjour Jean, bonjour
comment,
à tous.
Comment allez-vous?
Bah, oh, Hachem, grâce à Dieu, super.
Les fêtes d'Tishri se sont bien passées à la Méno?
Excellente, on a eu un temps magnifique et en plus, on a eu le lendemain des fêtes de Tishri, on a eu une Arnaset Sefer Torah exceptionnelle, donc voilà, voilà, on est plein d'énergie.
Alors cette semaine, nous lirons la paracha de Noar ou Noé en français, l'allumage des bougies de ce Shabbat 18h35 et la fin du Shabbat demain à partir de 19h41. Les horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. Et on voulait dédier cette émission à l'élévation de l'âme de Madame Olga Abessera, la maman de notre amie Ariel Abessera. On souhaite évidemment nos condoléances à toute sa famille.
Grande pensée pour Ariel, qui est un très bon ami, et toute la famille.
Voilà, donc on voulait dédier cette émission à l'élévation de l'âme de sa maman. Avant de parler de la paracha, justement, on parlait de cette Sefer Torah, l'inauguration du Sefer Torah de l'Unité. Vous étiez dimanche matin aux manettes, on va dire. Vous êtes dans le comité d'organisation. Une semaine après, qu'est-ce que vous en ressortez?
Je crois que cette intronisation de Sefer Torah est vraiment à l'image de ce qu'est notre ville, c'est-à-dire une ville avec une très grande diversité d'institutions. Et en même temps, une très grande unité. On sait tous se réunir dans les grands moments et on sait tous, quand il le faut, travailler ensemble. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on a dans notre ville et il faut continuer à le garder, à le cultiver, à le faire fructifier. C'est vraiment notre richesse. Le judaïsme est toujours basé sur ces deux éléments. La spécificité de l'individu et l'importance du collectif. Donc quand on arrive à réunir les deux, je pense qu'on est sur une très bonne voie.
Alors le grand rabbin me disait lors d'un interview qu'on a fait qu'il était extrêmement étonné par l'affluence qui a eu lieu durant ces festivités, aussi bien le matin d'ailleurs que l'après-midi. Vous aussi, vous avez été un peu surpris agréablement?
Très agréablement surpris, mais aussi par la diversité des gens qui sont venus. On a vu des gens de la communauté, mais je dirais pas uniquement de toutes les tendances, aussi de toutes les sensibilités, de niveaux de pratique différentes. Mmh. Tout le monde s'est senti concerné. Il faut savoir que c'est un Sefer Torah qui a été écrit pendant la première vague du Covid, où la communauté a beaucoup, énormément souffert, il ne faut pas l'oublier. On a perdu énormément de personnes très importantes, et je veux dire, chaque personne est importante dans la communauté. Il fallait faire quelque chose qui puisse être, d'abord, remercier l'Éternel pour les miracles qu'il a fait envers certaines personnes, voilà, on le sait, le président Maurice Dahan, le rabbin Reuven Koryat, voilà, c'est un collègue. Quand il était, je dirais, dans une situation difficile, on avait tous les matins le cœur serré, et voilà, et de le voir venir travailler, de le voir lui et Maurice debout et travailler avec de l'énergie. C'est quelque chose dont l'émotion dépasse le qualificatif des mots.
Alors, on a une habitude dans cette émission avec le grand rabbin, c'est d'écouter le résumé de la paracha de la semaine. Quel en est-il, ce résumé?
Ah, alors, notre paracha est marqué par trois grands événements. Le premier, c'est le déluge. Le deuxième, c'est l'après-déluge, parce que c'est une étape importante. Et ensuite, il y a la tour de Babel. Voilà. Alors, on va essayer de laisser l'après-déluge un petit instant pour se concentrer sur les deux grands événements, je veux dire, qui vont cadrer la paracha.
Alors, on va y revenir justement et on va commencer à parler de la paracha. D'ailleurs, dès le début, on parle de Noé, qui est un homme, dit-on, homme juste, intègre, et juste dans sa génération, c'est une éloge ou un blâme? Les rabbins ne sont pas beaucoup sur la même longueur d'onde concernant cette information.
Alors, on va mettre tous les rabbins d'accord, c'est les deux. C'est quand certains disent que c'est un tzaddik, donc un juste de sa génération. Quand on précise de sa génération, ça laisse une ambiguïté. Que veut-il dire, que veut-elle dire la Torah quand elle nous précise dans sa génération ? Est-ce que cela veut dire que dans sa génération uniquement, il était juste ? Ou alors, ça veut dire que malgré le comportement de sa génération, il était juste ? Alors, on peut pointer quelque chose d'intéressant dans le comportement de Noé par rapport à, par exemple, le comportement d'Abraham qui viendra plus tard. C'est que Noé s'est essentiellement concentré sur lui et sur sa famille. Et donc, c'est quelque part le message que la Torah veut nous faire passer. L'importance de savoir préserver sa famille, mais aussi le fait de dire, attention, dans les générations futures, sachez aussi regarder en dehors de l'arche. Voilà, sachez aussi regarder en dehors du cadre de votre famille pour penser plus collectif.
Alors, justement, ce qui est intéressant aussi dans la paracha, c'est que dès le début, on cite les trois fils de Noé, Sem, Ham et Yafet. D'ailleurs, l'ordre est donné comme ça, mais ils sont nés à des moments différents. Pourquoi on a voulu citer tout de suite les enfants de Noé et pas les citer un peu plus loin quand ils montent dans l'arche ?
Très intéressant comme question. C'est une question qui est relevée par beaucoup de commentateurs et je retiendrai l'idée qu'il ne suffit pas de dire que Noé était une personne juste pour que Noé soit juste, en fait. Il faut également que ses enfants soient justes. C'est-à-dire qu'il faut que ses enfants suivent l'éducation pour qu'on puisse vraiment qualifier Noé de tzaddik. Donc, quelque part, c'est la marque du tzaddik, c'est de savoir transmettre. Il n'y a pas de... Ça revient au même point. Il n'y a pas de qualité, je dirais, de l'individu sans être capable de penser à l'autre. Donc, si je ne fais que cultiver ma propre, ma propre richesse intellectuelle, etc., c'est bien. Mais en fait, je vais rester cloîtré dans mon coin. Et l'objectif, c'est quand même de pouvoir transmettre. Or, le début de la transmission, c'est ses propres enfants.
Donc, on peut dire que les trois enfants de Noé étaient dans sa lignée.
Tout à fait.
D'accord. Alors, il y a quand même une chose qui m'a étonné, c'est que Dieu demande à Noé, Noar, de construire l'arche. Et c'est une œuvre titanesque qui prend toute une vie. Il aurait pu l'aider, Dieu, un peu, non ? En lui donnant un petit coup de main, en faisant un petit miracle comme ça pour construire l'arche plus rapidement.
Certains disent qu'ils ne savaient pas planter un clou, oui, c'est encore une fois, c'est une bonne question, Jean. 120 ans pour construire une arche, bon, c'est beaucoup, surtout quand on sait que les Chinois peuvent construire des hôpitaux en 2 semaines. Mais il faut savoir...
Il avait 600 ans quand même, Noir.
Il avait 600 ans, enfin, au début du déluge, donc voilà. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que l'objectif de ce délai n'était pas uniquement une question, je dirais, logistique. C'était surtout histoire de pouvoir permettre aux gens qui allaient voir ce que Noé fait et lui demander pourquoi tu fais ça. Et alors, il allait pouvoir leur expliquer et peut-être que ces gens vont alors changer de comportement puisque sa génération était quand même une génération extrêmement corrompue et pervers. Donc, c'était ça l'objectif de ce temps. 120 ans, c'est comme la Torah nous a dit déjà la semaine dernière, 120 ans, c'est le temps d'une vie, donc c'est un petit peu le temps de pouvoir permettre à chacun de pouvoir faire une introspection et éventuellement changer de comportement.
Ça fait quand même pas mal de temps.
Mais aussi, c'est le temps pour que Dieu puisse changer d'avis.
Alors, il y a une alliance entre Dieu et Noar, et finalement, on ne parle pas du deal entre Dieu et Noar. C'est quoi l'alliance ? C'est une alliance... du bride comme le fait avec Abraham ou avec...
Alors, l'alliance... Alors, dans notre paracha, il y a deux alliances. Il y en a une quand le terme alliance, en tout cas, est venu deux fois. La première, c'est un genre de promesse que Dieu promet à Noar que tout va bien se passer parce que quand même rester une si longue période, quasiment, je dirais presque un an, dans la Teva, dans une arche, ça peut quand même faire peur et Noar se demande si à la fin il va sortir intègre. Donc voilà, ça c'est la première promesse que Dieu fait à Noar, que tout va bien se passer.
Et la deuxième,
c'est en sortant. Alors, en sortant de la Teva, il y a ensuite la deuxième alliance. Alors, la deuxième alliance est totalement différente parce que le temps du déluge, à proprement parler, a duré 40 jours. Puis, il y a eu l'eau qui a submergé la terre pendant 150 jours et après, il y a eu 60 jours de reflux. Alors, quand on additionne tout cela, ça veut dire qu'il y a quand même eu une période où on a le monde a traversé une période de nettoyage. Voilà, comme si on se retrouvait avec un nouveau monde. Alors, ce nouveau monde qui allait se rebâtir et renaître avec Noir, c'est un nouveau monde qui doit repartir sur des nouvelles bases. Et cette idée de nouvelles bases, c'est aussi l'idée de dire, voilà, on refera plus qu'on a fait avant. Parce que c'est ça le principe des nouvelles bases. Mmh. Et donc, l'idée que Dieu a eue de détruire le monde par le déluge, eh bien Dieu s'engage à ne plus y avoir recours. Mais pour autant, il faut bien trouver la raison qui justifie ce renoncement. Eh bien, ce qui est expliqué dans la pensée juive, c'est que les 40 jours d'eau, de pluie, de déluge sur le monde correspondent aux 40, vous savez qu'un mikvé, par exemple, pour se purifier, il faut 40 quantités d'eau. Mmh. C'est cette idée du 40 qui va revenir. D'accord. Comme si le monde allait passer une purification, et cette purification du monde permettra au monde, en réalité, de ne plus jamais retomber dans les travers dans lesquels il était. Et c'est justement ce raffinement du monde qui permet l'alliance telle qu'on la connaît, puisque l'alliance, c'est l'arc-en-ciel.
L'idée qui est aussi importante dans cette histoire du déluge, c'est qu'en fait, Dieu, il a effacé ce qu'il a fait, c'est-à-dire il s'est trompé.
Alors, tout processus, c'est une question qui est pertinente, mais qui prend beaucoup de temps. Alors, je vais essayer d'être court. Tout processus de création passe par des étapes. Voilà. Il y a une création qui va arriver, qui est brute, et c'est un petit peu le cas de la création du monde à l'origine, qui était une création brute. La Torah nous raconte, par exemple, que quand on plantait des graines, eh bien, le blé ne poussait pas. Donc, il y avait une forme de brutalité dans la nature. Et donc, il fallait pouvoir changer cette brutalité, la raffiner, de la même manière qu'il y avait une brutalité dans l'humain. Le caractère humain était brut. Et donc, il était, je dirais, un caractère extrémiste. Et donc, tout, on le sait aujourd'hui, mais les extrêmes sont mauvais et sont porteurs de comportements que je dirais répugnants. Mmh. Et c'est cette idée-là qu'il faut raffiner. Et pour cela, il faut passer par une étape de raffinement. L'étape de raffinement, eh bien, c'est le déluge. Mmh. Et une fois qu'il y a ce raffinement, eh bien, on peut avoir l'arc-en-ciel. J'ai étudié la semaine dernière, cette semaine, une explication extraordinaire qui explique que si l'arc-en-ciel est un phénomène naturel que nous voyons, c'est le reflet, en fait, c'est la conjoncture entre l'eau, la pluie et le soleil, et le rayon de soleil qui va briller, qui va refléter sur le nuage, eh bien, à l'époque d'avant le déluge, le nuage était tellement grossier que l'arc-en-ciel n'était pas possible. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait physiquement qu'il y ait une modification de la nature pour que l'arc-en-ciel soit possible. Et ça a été possible après le déluge.
Alors l'arc-en-ciel, c'est en fait, ça veut dire que Dieu, à chaque fois qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que Dieu veut détruire le monde, c'est comme ça qu'on peut expliquer.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'arc-en-ciel est visible, c'est-à-dire que le monde est arrivé à un niveau où normalement il aurait pu être puni de déluge, mais parce que la promesse de Dieu est tout le temps valide, eh bien, il nous envoie un signe de dire attention.
Alors, on va passer évidemment le déluge et on arrive à la fin. Au chapitre 8, on parle de la colombe. Une colombe est envoyée pour voir si la terre est sèche. La colombe, c'est symbolique ou ça n'a aucune importance ?
Alors, oui, bien sûr, la colombe, c'est important. La colombe, c'est un symbole d'abord qui a été repris également, le symbole de la paix. Mais ce n'est pas uniquement le symbole de la paix, c'est le symbole de la reconstruction possible. Donc, c'est cette idée-là qui est envoyée. Et je pense que Noir, qui était une personne qui était très sensible au caractère des animaux, comme on peut le voir dans les Midrashim, eh bien, il a profité d'utiliser la colombe également comme symbole.
Alors, Noah, quand il sort de l'arche, il se sent obligé, dit-on, d'offrir un sacrifice à Dieu. C'est quoi ce genre de sacrifice ? C'est une odaa ? C'est autre chose ?
Ah oui, bien sûr, parce que Noach a quand même été sauvé, donc c'est un rescapé. En tant que rescapé, il faut toujours savoir remercier.
Qu'est-ce qu'il fait là, en faisant sacrifice?
Et ben là, des animaux, hein, comme c'était, ça a déjà été à l'époque de Caïn et Ève qu'on a vu. Et donc, c'est ce sacrifice, d'ailleurs, qui a provoqué cette alliance de Dieu envers l'humanité.
C'est là que Dieu permet aux hommes de manger de la viande.
C'est tout à fait à ce moment-là, exactement, que Dieu permet à l'homme de manger de la viande pour énormément de raisons. D'ailleurs, les midrashim, les mefarshim, je dirais presque se bagarrent pour apporter des raisons. Une des raisons, c'est parce que Noach était à l'origine de la protection des animaux, en réalité. Donc, comme il les a protégés, eh bien, Dieu lui a dit, puisque tu les as protégés, je te permets d'en consommer. Donc, il y a cette idée, bien sûr.
Alors, on arrive à un épisode qui a changé le cours de l'histoire avec les malédictions et les bénédictions de Noach auprès de ses enfants. Alors, on va raconter l'histoire. Noach plante une vigne, et il s'enivre avec ses vignes. Et qu'est-ce qui arrive après sur le rabbin Mendel Sama?
Ensuite, il savait peut-être pas que l'alcool, ça rend sous. Donc, il a un petit peu abusé. Et son fils a abusé de lui, du coup. Et Ham, voilà. Et Shem et Yefet, donc, l'ont protégé, l'ont couvert. Et alors, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Et forcément, il a maudit Ham, notamment parce que Ham... l'a castré, comme le Midrash dit, et c'est écrit dans Rashi. Donc, du coup, il s'est rendu compte qu'il avait trois garçons, mais il ne pouvait plus en avoir un quatrième. Et de ce fait, il n'aura pas d'enfant pour s'occuper de lui durant ses vieux jours. Et c'est la raison pour laquelle il a chassé, pour lui dire, voilà, tu m'as empêché d'avoir un quatrième enfant, ben, je ne veux pas que tu t'occupes de moi non plus.
Pourquoi on dit que c'est un événement qui a changé le cours de l'histoire?
Alors... Je ne sais pas si ça a changé, alors peut-être ça aurait changé un petit peu plus tard, mais disons que jusqu'à... Alors si on reprend on fait une petite rétrospective, mais avant Noach, il y avait toute forme, je dirais, de personnalité, etc., qui existait. Pendant Noach, eh bien, il y avait Noach et ses enfants, et on peut aisément concevoir que c'était une famille très unie. Après cet événement, il y a quand même une scission dans la famille, c'est-à-dire entre Noach, ses deux fils, Shem et Yefet, et Ham, qui tout à coup s'est retrouvé un petit peu chassé, donc je dirais un peu hors, banni par son père. Donc forcément, c'est ce qui a sans doute provoqué ensuite ce qu'on peut voir, la dispersion de l'humanité, dans l'épisode qui viendra plus tard, avec la tour de Babel. Donc oui, on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, la diversification de la descendance de Noach commence.
Alors justement, on va arriver à la tour de Babel. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de la tour de Babel en général, on croit que c'est un événement plutôt folklorique, mais c'est vraiment écrit dans la Torah. C'est quoi la tour de Babel alors ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie la tour de Babel dans la Torah, on ne comprend pas ce que c'est.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se dire, mais c'était quoi leur problème ? Alors, vous avez plusieurs versets, il y en a un seul d'ailleurs, qui va expliquer ce que veulent faire ces gens-là, on ne comprend pas, puisqu'ils disent Vena Selanu Shem, qu'on se fasse un nom, Pen Nafuts Alpene Kolaret. On a peur d'être dispersé, perdu, etc., qu'on se fasse un nom. Et donc, on a énormément de mal à comprendre quel était leur problème. Hein. Vous comprenez, si demain je me dis, bon, je vais construire une tour, allez, venez les amis, on va construire une tour ensemble, c'est quoi le problème? On a tous le droit de construire une tour. Donc, on a un petit peu de mal. Alors, certains on explique, oui, il a fait une tour, comme ça, on va monter, on va défier Dieu, hein, on va faire la guerre à Dieu dans le ciel. Oui, c'est plausible, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais... On a un peu de mal, voilà. L'articulation de cet épisode a quand même un petit peu de difficulté. Alors, Moi, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, mais de façon plus globale. C'est-à-dire que quand on remet les choses dans leur contexte, on a des gens qui vivent, etc. Et tout à coup, ils se disent « Non, on ne peut pas juste vivre et avancer, on a besoin de faire une tour. » L'histoire de faire une tour, entre guillemets, pour défier Dieu, ce n'est pas que Dieu a peur d'être défié, mais c'est de se dire « Mais qu'est-ce que devient la motivation de l'humain ?» Voilà. Quand ils sont tous ensemble, c'est quoi leur idée ? Ils pensent à quoi ?
Se rapprocher de Dieu, non ?
Pardon ?
Se rapprocher de Dieu.
Alors, on pourrait penser que c'est se rapprocher de Dieu. Justement, bah, dans la tour, vous avez deux choses. Vous pouvez monter pour vous rapprocher de Dieu, vous dire « Tiens, vous savez, comme quand on est dans l'avion, on se dit « Tiens, je suis plus proche du ciel, donc je suis plus proche de Dieu. » Ou se dire « on considère que l'humain, s'il n'est pas capable de se construire une tour, c'est-à-dire de marquer son histoire par la pierre, eh bien, il va disparaître. » Et je crois que c'est là, en réalité, ça rejoint l'idée première qu'il y a dans Noir quand vous avez posé la question sur les enfants. La problématique de l'humain, c'est de savoir ce qu'il va rester quand il s'en va. Bon, enfin, une des grandes problématiques de l'humain. Mais quand on réfléchit à ça, si on pense que ce qu'on va laisser, c'est les pierres, et ce qu'on va marquer sur les pierres, et les monuments qui vont rester après mon passage, eh bien, quelque part, je passe à côté de ma vie. Alors que si, comme Noir, on pense à la suite, aux enfants, à la transmission, au partage, alors à ce moment-là, ce sont des vraies actions qui vont rester. Et c'est ça le message, quelque part, dans la Tour de Babel. Parce qu'on voit bien que, quelque part, il y a un jeu, on joue au chat à la souris dans cette histoire. Parce que Dieu, il descend, il se dit « Tiens, je vais regarder qu'est-ce que font les hommes. » Et il se dit « Ah bah, ce que je vais faire, tiens, je vais jouer avec eux, je vais leur changer les langues. » Et pendant qu'un va demander le marteau, bah, il va recevoir un seau de ciment. Et quand l'autre va demander une pioche, bah, il va se prendre un marteau sur la pierre, sur la tête. Bref, donc on va changer leur manière de communication. L'idée, c'est de se dire que on ne peut pas se penser uniquement à travers le monument qu'on laisse. Et alors, comment on se pense différemment ? Eh bien, c'est quand il y a différentes langues. Et c'est là où on arrive quelque part à une question extrêmement d'actualité, où on se rend compte qu'on est rentré dans un langage unique. On voit bien, si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., ou le langage politique, on a un langage unique. C'est-à-dire, c'est binaire, c'est blanc, c'est noir. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de langue différente. On n'essaie pas de comprendre l'autre dans sa langue à lui, on essaie uniquement de communiquer tous dans la même langue. Eh bien, je pense que c'est une des plus grandes erreurs de l'humain. Il faut savoir, l'histoire en tout cas de la Tour de Babel nous apprend, qu'il faut savoir composer avec différentes langues et il faut savoir tempérer les choses par, je dirais, la traduction. Alors, on peut parler tous la même langue, je dirais, au sens strict du terme, donc on peut tous parler le français, mais les termes ne veulent pas toujours dire la même chose. Et la grandeur de l'humain, c'est d'être capable de comprendre ce que se cache derrière les mots que l'autre exprime. Et non pas uniquement ce que les mots de l'autre renvoient chez moi. Okay. Et c'est, pour moi, c'est l'enseignement de la Tour de Babel.
Très bien. Alors, on va terminer cette émission et on va terminer la paracha. Alors, à la fin de la paracha, on termine par une description d'un long passage de noms, de généalogie, on parle de la naissance de Noir. Moi, ça m'importe peu de savoir qui est l'arrière-petit-fils de Noir. Qu'est-ce que
vous avez raison, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt.
Merci,
à part...
Merci, alors ça va.
Ça n'a aucun intérêt, à part un intérêt énorme. La Torah est très attachée aux dates, c'est-à-dire à la filiation. On le dit depuis le début, à la filiation. On veut comprendre quelle période on est passé de quelle période à quelle période. Quel est le nombre d'années, par exemple, on sait que depuis Adam Arishon jusqu'à Noir, il y a à peu près 1000 ans. De Adam à Noé, il y a eu 1000 ans. De Noé à Abraham, il y a également 1000 ans. Un tout petit peu moins que 1000 ans. Donc, ce que la Torah veut nous enseigner, c'est que, je reviens à cette idée, tout processus a besoin d'un temps. Et ce temps, il est défini ici comme étant 1000 ans, mais il faut être capable d'accepter le fait qu'il y a un temps de création, il y a un temps, je dirais, d'ajustement, mmh. et ensuite il y a le temps d'Abraham. Le temps d'Abraham qui est certainement le temps où l'histoire vraiment commence vraiment.
Quel intérêt d'avoir tous les noms de tous les...
Mais parce que ça nous permet de faire une datation. Ah. C'est-à-dire que si vous prenez la naissance de l'un et la mort de l'autre, eh bien vous arrivez exactement à dater la naissance d'Abraham et de comprendre qu'à partir de la naissance d'Abraham, et dès qu'il va grandir, on va rentrer dans le troisième millénaire. Or, le troisième millénaire, dans la Kabbale, on explique, tout processus nécessite trois. C'était 1, 2, 3. 1, c'est le début, c'est la création. 2, on serre un petit peu. Et 3, on équilibre. D'accord. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et la Torah a besoin de nous le dire. Je me permets juste de finir avec une idée. C'est que quand on regarde les trois premières parachiotes de la Torah, on a Bereshit, Noach et Lech Lecha. Bereshit, c'est une paracha qui commence très bien. Donc, la création du monde, etc. Mais qui finit mal. Donc, parce que Dieu dit, j'en ai marre, je vais détruire l'humanité. Noach commence mal, puisque ça commence avec le déluge, mais termine bien avec la naissance d'Abraham. Ouais. D'accord ? Parce qu'on nous dit, d'accord. tout de suite, la naissance d'Abraham, c'est une bonne fin. Hein, on sait qui était Abraham. Eh bien, à partir de Lech Lecha, on va avoir un bon début et une bonne fin. Comme quoi, le 3, dans le judaïsme, c'est une idée essentielle, c'est celle de l'équilibre, comme vous pouvez voir en physique, quand vous voulez construire un meuble ou n'importe quoi, l'équilibre, c'est avec 3 pieds. Donc, vous prenez un tabouret avec 3 pieds, il ne bougera pas. Avec 4 pieds, il risque de bouger. Donc, c'est cette idée, en réalité, et je reviens à votre question initiale, c'est la raison pour laquelle on a besoin de comprendre les dates et de comprendre dans quel millénaire on va rentrer et également dans quel paracha on va rentrer.
Alors, on va juste citer que dimanche, il y aura là aussi, Baruch HaShem, une inauguration d'un Sefer Torah à Sittin. Un petit mot sur cette opération,
M. Mendelsohn-Mama. J'en profite pour ne pas être étudiant. Moi, je ne m'occupe pas du tout de ce qu'ils font, mais je sais un petit peu ce qu'ils font.
Oui, il paraît, oui, vous avez de bonnes informations de première main.
Voilà. Alors, Sittin, c'est un mouvement de jeunes, d'adolescents, qui, quelque part, d'abord, c'est un mouvement international avec un des plus grands événements de la jeunesse juive du monde qui a lieu chaque année à New York, qui réunit, je ne sais pas, 7000 ou 8000 adolescents juifs, notamment avec une énorme cérémonie de Havdalah sur Times Square chaque année, que vous pouvez voir sur les vidéos sur YouTube. Mais voilà, c'est surtout un mouvement qui s'occupe quotidiennement des adolescents en leur apportant un accompagnement d'abord psychologique, religieux, voilà, ils essayent de les motiver à s'impliquer dans l'action communautaire et notamment par le fait que quasiment toutes les activités qui sont organisées par ce mouvement, eh bien, c'est pris en charge. Évidemment, il y a un responsable, mais il y a une forme d'autonomie dans leur action et un très bon encadrement.
Et un voilà. Sefer Torah donc dimanche.
Et donc il y a un Sefer Torah dimanche qui se conclut, qui va être intronisé spécialement pour le minyan de ces adolescents. Donc c'est un grand événement et je me réjouis de voir que de semaine en semaine dans notre ville, il y a des activités qui peuvent réunir tout le monde. Voilà, c'est une richesse incroyable que nous
donc,
avons
tout
ici.
Tout le monde est invité à cette...
Tout le monde est invité à y participer. Voilà.
Merci monsieur le rabbin Madan Savama d'avoir remplacé un peu au pied levé le grand rabbin qui devait être avec nous et qui n'a pas vu, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Shabbat shalom à tous.
Merci Jean et merci à tous. Shabbat shalom.
À la prochaine. Shabbat shalom.
Au revoir.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yudelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh.